Do you believe in happy endings? Do you really believe that we could be? Do you believe in happy endings? Baby, there is no need to be worried. He's the kind of man who lights up the room with his smile. He's the kind of man who everyone wants to have his time. He's the kind of man who draws you in close with his melody. He's the kind of man who wants for love, but he won't fall too deep. Then she walks in the room and time stops. He meets her gaze, looks away. So this is what she says. Do you believe in happy endings? Do you really believe that we could be? Do you believe in happy endings? Baby, there is no need to be wary. Which is the kind of girl who lights up the room you can't ignore. He's the kind of girl who draws you in close, leaves you wanting more. She's the kind of girl who everyone thinks they know who she's like. She's the kind of girl who wants a fun love, but she'll run and hide. Then he walks in the room and time stops. She meets his gaze, looks away. So this is what he says. Do you believe in happy endings? Do you really believe that we could be? Do you believe in happy endings? Baby, there is no need to be wary. I'll be your song, you'll sing with me. You take the lead and I will be your harmony. I'll be your light if you can be my world. Believe in happy endings. Baby, there is no need to be wary. Do you believe in happy endings? Do you really believe that we could be? Believe in happy endings. Baby, there is no need to be wary.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour une discussion sur l'image des femmes dans les médias. Et je vous présente tout de suite Emma G, chanteuse, compositrice, musicienne que vous venez d'entendre. Elle est ici en direct avec nous, chanteuse solo et également du groupe Static Era, anciennement le Emma G Band. Emma est également une militante des droits humains et en particulier des femmes. Elle est issue de Nouvelle-Zélande. Elle est née en Nouvelle-Zélande. Thank you very much. Merci beaucoup, Emma, d'être avec nous. It's a pleasure to have you.
Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Emma, how is life in Washington, D.C.? Emma, comment se passe la vie à Washington, D.C.? Vous êtes une grande professionnelle, but you play in the street to earn a life.
Correct. And I love it. I love it.
Et vous aimez jouer dans la rue.
I do. I moved here to do music full time, and I have the added bonus of helping people start their day positively and smiling.
Alors, Emma est venue... You came from New Zealand to the US, that's it?
Yes.
Alors, Emma était donc en Nouvelle-Zélande. Elle est arrivée aux États-Unis pour gagner sa vie en faisant de la musique. Hein. Je rappelle qu'elle fait partie d'un groupe de rock qui est vraiment excellent, hein, qui s'appelle donc Static Era. Et elle aime beaucoup faire plaisir aux gens, en fait. C'est pour ça qu'elle joue dans la rue, parce qu'elle aime beaucoup faire plaisir aux gens. Nous avons une autre invitée, justement, pour parler hein, de ce sujet très particulier, donc de l'image des femmes dans les médias. Pour en parler, nous avons donc Sarah Diligenti, directeur exécutif de l'Alliance française à Washington, D.C. Sarah, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie de m'avoir invitée.
Alors, vous avez remarqué que j'ai bien fait attention. Je vous ai présenté en tant que directeur exécutif et non pas en tant que directrice exécutive.
Tout à fait. La fonction d'abord.
Voilà. Donc, ceci dit, donc, je vous ai demandé si vous accepteriez de participer à ce genre de discussion et il se trouve que ça vous intéresse énormément. Les femmes dans les médias, comment sont-elles perçues ?
Les femmes politiques, surtout.
Les femmes politiques, comment sont-elles perçues ? Comment sont-elles filmées ? Comment sont-elles présentées ? Comment sont-elles d'une manière générale ? Alors, on peut faire un petit tour du monde très rapidement. On va commencer, forcément, on est aux États-Unis, il y a une campagne électorale en ce moment, il y a une dame dont on parle beaucoup, qui est très connue, qui est de plus en plus connue, qui s'appelle Hillary Clinton. Alors, vous-même, à travers les médias, notamment à travers cette campagne, qu'est-ce que vous avez perçu finalement par rapport à la manière dont elle est présentée ? Est-ce que vous percevez quelque chose de particulier ou non ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée des femmes sur la scène politique, dans le monde d'ailleurs, occidental en particulier, remonte environ aux années 70. Et finalement, on pourrait croire que l'image de la femme politique dans les médias aurait évolué d'une manière positive. Avant que la femme politique, enfin avant que la femme ait un rôle dans politique, en quelque sorte, elle était souvent présentée comme un accessoire de campagne, et ce fut le cas d'ailleurs d'Hillary Rodham Clinton quand elle était l'accessoire de campagne de son mari, Bill, et puis première dame. Donc les médias ont souhaité montrer la femme dans un rôle parallèle à la politique, comme une mère, s'occupant de ses enfants, et c'est souvent le cas aux États-Unis dans les campagnes électorales, donc c'est-à-dire un élément de stabilité. La même chose d'ailleurs dans les pays occidentaux européens. Et puis bon, dans les années 70, après la révolution sexuelle, la femme a réalisé qu'elle pouvait avoir un rôle dans la vie politique. En France, ça a été le cas en 74 avec la première femme à se présenter à une élection présidentielle. Je pense que beaucoup d'auditeurs vont sourire. C'était Arlette Laguiller, qui était plutôt androgyne, très à gauche, très féministe. Et puis aux États-Unis, donc Hillary Rodham Clinton, maintenant, on est en 2016. Quelle image peut-elle offrir ? Eh bien, c'est quand même ahurissant de voir que les médias sont responsables, en fait, du maintien des stéréotypes et qu'Hillary Clinton n'échappe pas à cela, au traitement médiatique négatif. On parle de sa vie privée, on parle de ses enfants, on parle de ses vêtements. On parle pas des vêtements des hommes politiques, ou très rarement. Enfin, moi, je n'ai pas entendu...
De ce qu'elle mange et de ce qu'elle boit,
voilà,
également.
De ce qu'elle mange, de ce qu'elle boit. Hillary Clinton, elle fait preuve d'autorité. On va dire, elle est autoritaire. Si c'était un homme, on dirait il est ferme. Hillary Clinton va faire preuve de décision, hein, on va dire, elle est incontrôlable, alors qu'un homme, on dira, il sait où il va. Donc c'est ce genre d'image qui, depuis l'arrivée des femmes sur la scène politique dans les années 70, n'a pas changé. Et ça, c'est dommageable pour l'image de la femme et dommageable pour l'image d'une société.
C'est vrai qu'on voit très peu d'évolution, effectivement, dans ce domaine-là. Ce qui nous mène peut-être vers Angela Merkel, hein, parce que c'est une sacrée figure politique hein, dans le monde. Angela Merkel, elle a une image très particulière. Alors là aussi, bon, on fait toujours attention à la vestimentation. Alors moi, j'ai entendu quelques réflexions d'hommes dire que bon, Angela Merkel, c'est bien comme elle s'habille parce que bon, on voit pas trop...
On ne voit pas sa féminité.
Voilà. Vous, qu'est-ce que vous voyez par rapport Angela Merkel, est-ce que selon vous, c'est quelqu'un qui est consciente justement de cette image médiatique et qui se débrouille justement pour pas trop faire jaser la presse.
Je pense qu'Angela Merkel, c'est un cas un petit peu à part. D'abord parce qu'elle est née ancrée dans un système autoritaire, celui de l'Allemagne de l'Est, laquelle n'existe plus depuis 1989, après la réunification en 1990 de l'Allemagne unifiée. Mais ayant vécu dans un système où le système communiste, dans les pays d'Europe de l'Est, la femme avait une part dans la vie politique et avait notamment une part dans la vie économique. Elle, même en URSS, elle faisait des travaux qu'on imaginerait peu des femmes blanches occidentales faire, comme réparer les rails du tramway, hein, des choses comme ça. Donc des gros travaux physiques, manuels, casser les cailloux sur la route. Et donc elle a vécu ça. Donc Angela Merkel, elle est un cas un peu à part. Si on prend, mais elle hérite en même temps de l'image qu'ont pu avoir les médias occidentaux de Margaret Thatcher dans les années 70 en Angleterre, que l'on avait surnommée quand même, c'est pas très sympathique, la dame de
la
fer.
Dame de fer, hein. Ouais.
Les femmes, quand elles entrent en politique, on leur donne alors rarement le surnom de déesse, mais en France, on peut parler d'une Jeanne d'Arc, ou on va parler d'Amazon dans le monde entier au niveau des femmes politiques. Bon, vous voyez, je sais pas moi, imaginez un homme qu'on appellerait un Apollon.
Ouais.
Non, c'est pas le cas.
Ouais.
Donc Angela Merkel, elle a à son avantage le fait d'avoir grandi en Europe de l'Est, à son désavantage le fait d'être confrontée maintenant à un monde médiatique occidental qui s'attache plus aux apparences qu'au contenu. Et qui fait de la chose publique, de la chose politique, au sens grec du terme, un spectacle.
À propos de spectacle, on pourrait peut-être parler, on va dire, la tenue vestimentaire. Parce qu'on a remarqué, effectivement, qui ne l'a pas remarqué, qu'une femme politique, on va juger son apparence physique, etc. Il y avait notamment Yulia Porochenko, dont on va parler aussi, qui n'a pas été épargnée par les médias. Bon, ça, c'est pas la tenue vestimentaire, mais c'est un autre côté, on va dire. Dilma Rousseff, c'est un peu le même cas. Catherine Samba-Panza. Ex-présidente de transition centrafricaine. Je reviens sur la tenue vestimentaire. Moi, j'ai entendu plusieurs fois, et on l'a entendu dans les médias, où elle a encore changé sa tenue. Elle se change tous les jours. Et en fait, oui, on n'entendra peut-être jamais dire ça sur un homme politique qui va changer deux fois par jour. Au contraire, on va peut-être dire même c'est bien, il prend bien soin de lui, non ?
Probablement. Bon, il faut dire quand même que les hommes n'ont pas vraiment le choix en matière vestimentaire garde-robe. Les femmes, on a quand même plus de choix, on a un avantage sur eux. Mais c'est vrai que pourquoi commenter sur la... Enfin, moi j'ai lu, je sais plus, c'est dans le Washington Post il y a quelques années, on commentait sur une des nouvelles femmes élues au Congrès, et sur la manière dont elle croisait les jambes, et sur la couleur de ses collants.
Mais ça, enfin, c'est même un peu malsain.
C'est même très
quoi.
Sexiste.
Ouais,
c'est même très
sexiste,
sexiste.
Ça, forcément.
Oui, si, on va pas parler de la manière dont un homme se tient.
Oui, on regarde pas ses chaussettes.
On regarde pas ses chaussettes. C'est d'ailleurs fort dommage, il devrait investir dans les chaussettes. Mais comme l'ambassadeur de France. Mais sinon, ce qui est vrai, c'est que cette image, la manière de toujours critiquer une femme sur... Enfin, il y a Françoise Giroud, que j'aime beaucoup, qui a eu cette phrase assez pertinente, je dois dire, là-dessus. Quand, en 1983, elle avait été chargée de la condition féminine entre 1974 et 1976, et elle a dit « La femme sera l'équivalent vraiment légal de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Une femme incompétente à un poste important sera ce jour-là l'équivalent légal d'un homme. Ce qui veut dire, en gros, qu'il y a plusieurs postes importants auxquels on a nommé des hommes
Bien
incompétents.
Sûr. Bien sûr, tout le monde n'est pas compétent, c'est le cas. D'ailleurs, si c'était le cas, ça saurait. À propos de les femmes sont-elles, etc. Moi, je me suis amusée un petit peu tout à l'heure sur Gogol. Et je faisais une recherche sur Gogol et j'ai tapé donc les femmes sont-elles. Et je vais vous dire ce qui est sorti. Vous savez, en fait, ce qui sort... C'est, il faut le savoir, en fait, c'est les questions qui sont posées le plus souvent, c'est-à-dire par des millions et des millions de personnes.
Bien sûr.
Première phrase, les femmes sont-elles égales aux hommes ? Deuxième, les femmes sont-elles toutes bi ? Troisième phrase, les femmes sont-elles infidèles ? Quatrième expression, les femmes sont-elles vénales ? Voilà ce que j'ai eu.
Waouh.
Mais ça, c'est des expériences intéressantes. On peut le faire régulièrement et voilà quoi, ça, c'est parlant, non ?
C'est très très parlant. C'est très parlant. Et ce qui est parlant aussi, c'est quand on regarde les chiffres après, savoir combien de femmes sont où et quels sont les pays en avance là-dessus, c'est aussi très parlant.
Emma G. Emma G.
I'm trying to keep up with the conversation.
You are an activist for women's rights. Vous êtes une militante des droits des femmes. So you started very young. Quand vous avez commencé, vous étiez très très jeune. Vous aviez une vingtaine d'années. Et can you talk to us about that? What did you do exactly in New Zealand as an activist?
Well, so I actually, when I was 10, I won a trip to a children's symposium in Florida as an ambassador for New Zealand Youth.
Ok. Quand elle était jeune, elle avait 10 ans, elle est venue à un symposium pour les jeunes à Washington, c'est
en
ça?
En Floride.
En Floride. En Floride. En Floride. Yeah. Et what did you do? Et en tant que... pour représenter la Nouvelle-Zélande, en fait, c'est ça? To represent New Zealand.
Yes. Mm-hmm. So I... my purpose for going was as a musician and as a woman, or a young woman at that age, to... learn about how to use my music to empower people.
Ok, donc déjà à l'âge de 10 ans, elle est venue jouer, elle est venue chanter, donc représenter la Nouvelle-Zélande. Et en plus, c'était une manière déjà à l'âge de 10 ans pour montrer aux autres comment, c'est pas empower people, c'est pas donner du pouvoir, c'est rendre autonomes les gens. Donc rendre autonomes les femmes en fait. So you started at 10 years old, it's very very young. And you still do that? Est-ce que vous continuez d'être activiste, d'être militante des droits des femmes?
I'm very much an advocate for equality and empowerment and supporting
for young people,
women specifically. I've always been involved and I'm quite outspoken about it.
And when you sing, when you write your song, what do you talk about? Is
it depends.
Attendez, excusez-moi. Vos chansons, de quoi parle-t-elle?
Life inspires me, so I write a lot about people.
La vie, les gens, la société, la vie de tous les jours. La vôtre aussi, your life?
Life.
Your life also, your...
Yeah, my life, the lives of other people, my observations. I wrote a song 2 days ago about singing on the streets.
Ok, elle a donc écrit une chanson il y a 2 jours, on peut dire que ça tombe à pic, sur le fait de chanter dans la rue, de jouer, de chanter dans la rue, ce qu'elle fait. Et you are going to do a new album, vous allez faire un autre album?
It's an EP, so it's an extended playlist. It's only 4 tracks, but I'm working on that at the moment.
And what will be the topic? De quoi allez-vous parler?
The topic covers everything from relationships to self-empowerment.
Ok, encore, donc, encore, comment donner, comment vous le diriez, vous, cela, Sarah, comment, empowerment, comment
empowerment,
donner...
là, on est tenté d'utiliser le mot de rendre puissant, mais faire acquérir l'autonomie, oui, mais aussi rendre capable d'eux, parce que c'est enfin pouvoir être capable d'eux, et non pas au sens physique, mais à tous les sens du terme, économique, intellectuel, culturel, dans la société, sociologique.
Je crois que c'est bien dit. On va parler un petit peu des dames politiques africaines. Vous en savez un petit peu quelque chose?
Un petit peu, pas autant que les dames politiques occidentales, mais un petit peu. Enfin, je dois dire que la première femme sur le continent africain à devenir chef d'État au Libéria, c'était assez impressionnant en 2006, puisque en France, on attend encore.
Ouais. Pas seulement en France.
Pas seulement en France, d'ailleurs.
Oui. Oui. Alors, effectivement, Hélène Johnson Sirleaf, quelle image vous percevez de cette dame? On n'entend pas beaucoup parler.
On n'entend pas beaucoup parler d'elle. Alors, est-ce que c'est... Alors là aussi, on peut peut-être regarder les médias, s'interroger, savoir pourquoi on ne met pas en avant les femmes qui sont chefs d'État, soit présidentes, soit premier ministre dans leur pays, et qui sont le plus souvent, d'ailleurs, dans des pays émergents. D'accord, puisque en fait, si on regarde bien les chiffres, on s'aperçoit que c'est souvent dans les pays émergents qu'on a des femmes chefs d'État. Et peut-être là, oui, les médias ont une responsabilité parce que si on n'entend rien, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est la question qu'on peut se poser quand on est une femme. On peut se dire pourquoi on ne parle pas de Madame Sirleaf. Est-ce que c'est parce que ce qu'elle fait c'est mauvais? Est-ce que c'est parce que ce qu'elle fait est bon? Alors évidemment, le proverbe c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles, mais c'est important pour les pays émergents et pour les pays occidentaux d'avoir des rôles modèles positifs et donc de mettre en avant toutes les femmes, quelles qu'elles soient, quel que soit le pays où elles sont chefs d'État, où elles sont premier ministre, où elles ont une action dans leur société, de les mettre en avant. Et donc le blackout en quelque sorte des médias sur les femmes chefs d'État dans les pays émergents, c'est une question qu'il faut se poser.
On revient sur Dilma Rousseff et Yulia Porochenko, plus ou moins toutes les deux dans le même cas, pas épargnées du tout par la presse et même par les gouvernements, à commencer financés par les gouvernements. On peut faire un petit parallèle avec d'autres, on va dire, d'autres personnes, d'autres dirigeants qui ont des gros problèmes de corruption, etc., comme Jacob Zuma, par exemple. Mmh. Et qu'est-ce que vous pensez du traitement fait pour ces deux femmes, notamment plutôt Dilma Rousseff, pour commencer?
Mais Dilma Rousseff, elle vient juste de faire l'actualité récemment. C'est intéressant de se dire que Dilma Rousseff, quand même, elle avait été réélue, qu'elle avait été réélue majoritairement, et que là, majoritairement, elle va vers ce qu'on appelle en anglais un impeachment. Donc elle va être enlevée du pouvoir. Est-ce une histoire de corruption? Est-ce une histoire de...
Politique?
De politique, plutôt.
On ne sait pas trop encore.
On ne sait pas vraiment trop, ouais. Donc c'est impressionnant. Pour ce qui est de Yulia Tymoshenko, l'Ukrainienne, c'est un petit peu différent, parce que elle a joué, et là, elle a bien joué, parce que là, même si les médias n'ont pas épargné par la suite, mais ils étaient peut-être un petit peu, les médias ukrainiens en tout cas, dirigés par l'opposition, mais dans les médias européens, elle est quand même passée pour une sainte.
Voilà. Mais au tout début, Mais c'est après, quand elle a commencé à avoir des problèmes, on s'est un petit peu, les médias se sont un petit peu retirés.
Ils se sont un petit peu retirés, oui. Mais elle a joué sur la carte de la séduction. Ouais.
Après, on l'a fait un petit peu passer pour une victime, effectivement. Mmh. Enfin, il y a eu différents stades de parce que la presse, elle vacille un peu d'un côté, un peu de l'autre. Enfin, c'est pas fixe, ça bouge un peu tout ça.
Tout à fait. Elle a quand même, elle, en tant que femme politique, elle a joué sur la carte de la séduction, et ça, lorsqu'on est une femme,
on dit ça. Ouais. On dit ça parce qu'elle est jolie de nature. Elle a le droit de prendre soin d'elle. Est-ce qu'elle a vraiment joué? Enfin, ça encore, est-ce que c'est pas finalement, est-ce que c'est pas un petit commentaire un peu sexiste, non?
Non, de ma part, non, parce que quand je dis qu'elle a joué de la carte de la séduction, c'est parce qu'elle a joué.
Pas en tant que femme.
Voilà, c'est pas la même chose qu'une femme qui va jouer. Enfin, c'est pas une carte de séduction sexuelle. Elle a joué sur la carte de la séduction nationaliste. C'est-à-dire, c'est une Ukrainienne, et comme par hasard, c'est une Ukrainienne blonde. Comme par hasard, c'est une Ukrainienne blonde avec une grande natte en forme de couronne au-dessus de sa tête quand elle se coiffe. Et ça, c'est le cliché, c'est un symbole, l'image d'Épinal, le cliché que l'Européen peut avoir de l'Ukrainienne, l'Européen occidental, mais aussi que les Ukrainiens ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle a renvoyé aux Ukrainiens l'image de Maroussia, héroïne d'un livre pour enfants de PJ Stahl, que j'ai lu quand j'avais 10-12 ans, et elle a renvoyé cette image-là, qui est une image nationaliste. Mmh. Et en faisant cela, moi, ce qui me gêne chez elle, c'est qu'en utilisant cette séduction nationaliste, elle a réveillé les vieux démons d'Ukraine. Les vieux démons racistes.
Intéressant, voilà. Absolument. Je vous l'avais dit, l'émission est très très courte. Maintenant, on va laisser la place à Emma G. We would like to hear something again.
Sure.
Can you sing us something?
Absolutely.
Thank you so much.
This song is another original. It's written about being validated.
Validated?
Yes.
Oh,
être validé, être rendu, avoir une valeur.
Yes. Oui. Cause hanging from a thread, wanting to start again. Lips painted red, eyes shutting down the soul, losing all control in the rock and roll. Drunk on the dreams of needing to believe, needing to be saved. When you close your eyes against the cold, just know I am here. I can see you when your voice fades in the noise. It's okay, I can hear. I can see you. Told to just obey, never question faith. Eyes shutting down the soul, losing all control in the rock and roll. Drunk, so drunk on the dreams of needing to believe.
Merci beaucoup Emma G. Merci beaucoup à Sarah Diligenti. Un grand merci également à Joselle Morissin et à Nashwan Calais à la production. Un grand merci bien entendu à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices et à très bientôt. Au revoir.